On jase ce matin avec l'ami Farnel Morissette, vulgarisateur d'actualité en direct de New York. Farnel, comment ça va?
Ça va bien, comment ça va vous autres?
Très, très bien, très, très bien. T'es arrivé à New York quoi, en fin de semaine?
En fin de semaine, oui, c'est ça, c'est pour des voyages de travail.
T'as pas eu d'Américains qui t'ont dit « Hey, retourne chez vous, le Canadien! »
Non, mais écoutez, pour eux, ce qui se passe entre l'administration Trump et le Canada, c'est tellement pas la première nouvelle. Il y en a beaucoup auxquels je l'apprends présentement.
C'est drôle de dire ça, hein, à quel point ben oui. C'est tu sais, l'ampleur de ces menaces-là, de ces nouvelles-là pour nous au Canada versus le commun des mortels aux États-Unis.
Ouais, bien,
c'est pas la même chose.
Je lisais un sondage, Farnel, justement, hier là-dessus, puis seulement 1% des Américains considèrent le Canada comme un pays ennemi, alors que nous, avec les tarifs de Donald Trump, on est maintenant 27% de Canadiens, dont 34% de Québécois à considérer les États-Unis comme un ennemi. Donc, ça vient prouver là, que l'information ne circule pas de la même façon là, des deux côtés de la frontière.
Ouais, les nouvelles sont pas du tout les mêmes ici qu'ils sont au Canada. Puis ça, je le constate depuis que je suis arrivé, mais je le savais déjà, là, c'est juste frappant à voir.
Parlons-en de nouvelles canadiennes, Farnel. Il y a un député fédéral qui a lancé une pétition au-dessus de 100 000 signatures là, jusqu'ici. Et ce qu'on veut faire, c'est retirer la citoyenneté canadienne à Elon Musk. Parce que oui, Elon Musk a une citoyenneté canadienne. Commençons là, Farnel. Est-ce que c'est possible d'enlever la citoyenneté canadienne à quelqu'un?
C'est théoriquement possible, mais les façons de le faire sont extrêmement restreintes et il y a des très bonnes raisons pour ça. C'est que, historiquement, enlever la citoyenneté des gens, ça a été un outil normalement d'oppression de gens vulnérables. C'est une façon de faire en sorte qu'ils peuvent plus s'exprimer politiquement et perdre leur droit de vote. Et après ça, ils perdent aussi certains droits fondamentaux. Alors, pour retirer la citoyenneté de quelqu'un au Canada, il y a vraiment juste une façon de le faire, seulement sous une cause, puis c'est si cette personne-là a obtenu sa citoyenneté d'une façon malhonnête. Alors, si la personne a obtenu sa citoyenneté par fraude, par une fausse représentation ou en cachant des détails très, très importants de sa personne, de sa vie, dans sa demande de citoyenneté, c'est la seule raison qui peut mener à retirer la citoyenneté de quelqu'un sous le code, les lois canadiennes présentement.
Qui n'est pas
alors,
le
c'est
code.
C'est possible, mais.
J'allais juste ajouter qui n'est pas le code d'Elon Musk.
Non, il n'y a rien qui indique, en tout cas, à moins que quelqu'un sache quelque chose, là, mais je ne pense pas que c'est le cas, il n'y a rien qui indique que Elon Musk a reçu sa citoyenneté par une fraude, par une tromperie. Il l'a reçu parce que sa mère est une citoyenne canadienne, comme des millions d'autres Canadiens ont reçu leur citoyenneté aussi à travers leurs parents. Puis là, ça m'énerve parce que cette pétition-là donne l'impression que je veux défendre Elon Musk. Je veux pas défendre Elon Musk, mais je veux certainement défendre l'intégrité de la citoyenneté canadienne parce que c'est aussi ça qui est en jeu.
Farnel, moi, je suis patriotique canadien. Je m'affirme comme étant quelqu'un qui vient du Canada. Et là, Elon Musk attaque le Canada, mais pas juste Elon Musk. Les souverainistes, est-ce qu'on peut enlever la citoyenneté canadienne à Paul Saint-Pierre Plamondon?
Ben, c'est un peu ça qui est en jeu avec la pétition. Je pense si on commence à dire, si on regarde les termes de la pétition, c'est que bon, Elon Musk travaille contre les intérêts du Canada, qui fait preuve d'hostilité à l'autorité, à la souveraineté canadienne. Je peux bien comprendre ça, mais en effet, Paul Saint-Pierre Plamondon, on pourrait dire, fait la même chose. On pourrait, à la limite, étendre ça, dire, bon, ben tous les membres du Parti québécois, tous les membres de Québec solidaire, tous les membres du Bloc, tous les membres d'organisations qui travaillent contre la souveraineté canadienne d'un océan à l'autre sont en train de faire la même chose. C'est ça la boîte de Pandore que j'ai peur qu'on soit en train d'ouvrir si ça devient assujetti purement à l'impression politique de ceux qui sont au pouvoir présentement ou de la majorité qui sont représentés par ceux qui sont au pouvoir. Si ça mène à pouvoir retirer la citoyenneté de quelqu'un, c'est le premier pas qui est toujours le plus difficile à faire vers des dérapages du genre. Je dis pas qu'on va se rendre là, mais je dis que ça devient beaucoup plus facile de se rendre là après qu'on ait fait le premier pas.
Si on parle du concept de pétition en tant que tel, il y en a beaucoup sur à peu près n'importe quoi des pétitions. À partir de quand tu peux dire que ça a une véritable valeur? Parce que, tu sais, théoriquement, ça n'a jamais de réelle valeur. C'est pas parce que t'as une pétition qui ramasse beaucoup de signatures que tu vas aller de l'avant avec quelque chose. Mais à partir de quel moment t'as comme pas le choix de considérer quelque chose? C'est un nombre de signatures?
Il n'y a pas de barème clair là-dessus, mais c'est généralement une question à quel point la pétition amasse un appui politique qui est difficile à ignorer pour le pouvoir. La pétition, je suis allé voir il y a quelques minutes, elle approche 170 000 signatures.
Ouf.
Une pétition qui a 170 000 signatures, c'est difficile à ignorer pour des politiciens. Alors, c'est sûr que ça n'a aucune force légale exécutoire, là. La pétition ne va pas obliger les politiciens à agir, mais une tellement grande quantité, ça devient une expression d'une volonté qui commence à avoir un certain poids démocratique qui est difficile à ignorer. Et en tout cas, je suis allé voir hier, il y a eu beaucoup de commentaires dans une de mes vidéos que j'ai fait sur le sujet de gens qui disent, ben moi j'ai signé, mais c'est pas parce que je veux vraiment enlever la citoyenneté d'Elon Musk, c'est parce que je veux lui envoyer un message, puis je veux exprimer ma colère. Ça, je le comprends. Mais le véhicule approprié à travers une pétition parlementaire pour exprimer la colère, c'est demander une motion de blâme, une motion de censure. C'est pas d'aller jusqu'à quelque chose d'aussi extrême que de retirer la citoyenneté de quelqu'un parce qu'il prend des gestes politiques avec lesquels on n'est pas d'accord. Puis ça, c'est particulièrement grave parce que c'est le genre de choses qu'après ça, quelqu'un qui reçoit beaucoup de signatures de colère de gens qui veulent pas nécessairement le résultat, mais qui veulent juste exprimer la colère, ben on commence à décrire la façon que M. Trump est venu au pouvoir à la base. C'est beaucoup de gens qui étaient en colère contre l'establishment, contre les autorités, mais qui voulaient pas nécessairement aller jusqu'à les choses que Trump proposait. Ils voulaient juste envoyer un signal clair. Mais c'est après ça, M. Trump a été capable d'utiliser le fait que, bon, ben, il a promis qu'il allait faire ça et les gens ont voté pour lui pour aller dire, regardez, j'ai un mandat clair. Alors, quelqu'un pourrait prendre cette pétition-là, agir dessus, changer les règles sur la citoyenneté canadienne pour l'enlever aux gens pour des raisons politiques et dire, regardez, j'agis avec un mandat du peuple, j'agis avec un mandat démocratique. Alors, il faut faire vraiment très attention aux pétitions qu'on signe, surtout quand ils ont un enjeu de même si on pense que notre voix n'a pas de valeur, elle en a.
Ben, ça m'amène à un plus grand problème, peut-être, Farnell, c'est toi qui vas me le dire, mais le danger de signer des pétitions qu'on comprend pas vraiment pourquoi on est en train de signer. Là. T'sais, à quelque part, ça peut devenir un grand fléau de juste faire, puis « Ah ouais, passe-moi ton papier, je vais le signer. » Puis tu te regardes pas, tu t'informes pas sur ce que tu signes. C'est un plus gros problème, là.
C'est un plus gros problème, oui. C'est comme voter à l'aveuglette. C'est des gestes démocratiques qui ont un poids derrière eux. C'est sûr qu'on peut penser que notre vote compte pas, que notre signature compte pas, mais à la longue et à la masse, ça devient quelque chose d'important et on a une responsabilité de bien le faire.
Farnell, justement, là, parlant de nos responsabilités, est-ce que pour faire mal à Elon Musk, on serait pas mieux de prendre d'autres actions, notamment arrêter d'acheter des Tesla?
Et c'est déjà ce que beaucoup de gens à travers le monde au complet ont commencé à faire. Je pense que le nombre de Tesla qui sont vendus par mois est en chute libre présentement. C'est peut-être une question économique aussi. Les Tesla sont quand même très chers. C'est peut-être une question de recul sur les véhicules électriques. C'est sûr que l'administration Trump et les administrations conservatrices, les gouvernements conservateurs potentiels à travers le monde vont peut-être faire mal à la vente de Tesla de cette façon-là. Mais je pense que oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent ça, qui se disent, ouais, je suis pas sûr si je veux vraiment appuyer M. Musk. Si je peux m'acheter une auto électrique, ça va peut-être être un autre modèle.
Tu parles d'administration conservatrice. Comment tu vois les élections, les résultats d'élections en Allemagne, justement, où les conservateurs entrent au pouvoir? Et le parti extrémiste de droite a également fait ses meilleurs résultats de l'histoire. Est-ce qu'on est devant un courant mondial de droite qui tend, là, justement, à s'implanter un peu partout dans nos grands pays occidentaux?
Je pense qu'on est devant un courant qui continue. T'sais, le résultat qu'on voit du parti Alternative pour l'Allemagne, c'est un parti qui ressemble beaucoup au mouvement MAGA aux États-Unis, mais en Allemagne, a eu un score similaire aux partis qui sont beaucoup plus à droite en France, par exemple. On parle d'à peu près 20%. Ça reste loin de la majorité. La façon que les élections, le système électoral allemand fonctionne, il y a quand même plusieurs partis qui sont représentés. Et ce parti-là a reçu 20%, donc il est deuxième, mais on ne peut pas vraiment parler d'une grande vague de prise de pouvoir. Mais c'est une constatation qui suit de ce que c'est des élections qui se sont passées en France, des élections qui se passent en Italie avant ça. C'est qu'il y a clairement un courant de gens qui sont très affectés par la fonte de la classe moyenne, qui sont... c'est facile à les chercher avec un discours, disons, nativiste, nationaliste, anti-immigrant, parce qu'ils voient leur culture changer très rapidement avec l'immigration. Présentement, les seuls partis qui sont capables d'aller chercher ce genre de sentiment-là, c'est encore, comme on le voit depuis quelques années, des partis qui se situent beaucoup plus de façon conservatrice et de façon à droite en général.
Penses-tu voir cette tendance-là se maintenir ici au Canada, aux prochaines élections fédérales, avec le Parti conservateur du Canada, ou au contraire, comme on voit ce qui se passe avec Donald Trump comme président aux États-Unis, les menaces au Canada? On irait de l'autre bord peut-être et plus vers les libéraux.
C'est très intéressant de voir ce qui se passe justement avec ça. Je pense qu'à être Pierre Poilievre dans les dernières semaines, je la trouverais pas très drôle. L'effet Trump au sud de la frontière a un énorme impact et le Canada, en général, tend beaucoup à s'identifier en opposition aux États-Unis. Alors, voir les politiques de Donald Trump qui sont, disons-le, quand même très loin des politiques proposées du gouvernement du Parti conservateur au Canada, mais il y a quand même des associations qui se font dans la tête des gens. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent beaucoup plus aller vers le Parti libéral et on voit les appuis en train de monter, justement. C'est intéressant de voir les poids et les contrepoids politiques qui sont en train de se développer là-dessus, oui.
Farnell, je vais terminer avec une petite note humoristique, mais est-ce que le Canada va devenir un 51e État des États-Unis lorsqu'Elon Musk sera le premier ministre canadien?
Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à fantabuler sur des choses comme ça. J'ai pas l'impression que M. Musk est parti pour ça. Je pense pas qu'il y aurait un très grand intérêt pour ça. Mais tu sais, quand on parle de sa citoyenneté, en tant que citoyen canadien, il a le droit de voter et il a le droit de se présenter aux élections.
Aïe, aïe, aïe. Farnell Morissette, vulgarisateur d'actualité. Allez le suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Cher ami, bon séjour à New York. Merci pour ça ce matin. Toujours un immense plaisir et on se voit bientôt.
Merci, bonne journée à vous.
Salut, Farnell. Salut. Red.